Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme et sur le pied d'enthousiasme pour ce moment que nous allons passer ensemble. Et oui, c'est un rituel depuis 3 saisons déjà. On se retrouve chaque samedi matin entre 9h15 et 10h sur RTL pour bien démarrer le week-end. Alors on ne perd pas de temps, c'est parti pour le sommaire. Prêter main forte à un membre de sa famille ou à un ami, c'est super. Mais à quel risque s'expose-t-on quand on se porte caution pour un logement ou un prêt bancaire? Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL, nous donne toutes les infos bonnes à savoir avant d'accepter cette lourde responsabilité. De plus en plus de Français achètent bio pour des raisons éthiques et de santé. Mais consommer responsable veut-il forcément dire consommer bio? La réponse d'Olivia Détroya, journaliste économie, agriculture et grande conso au Figaro, va vous surprendre. C'est un fruit qui a du caractère et que l'on ne sait pas toujours cuisiner. Alors comment déguster le pomelo? Sonia Esguignan, cuisinière, auteure et journaliste, vous donne ses précieux trucs et astuces.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Tu peux compter sur moi.
Si jamais tu cherches un refuge,
tu peux compter sur moi.
Louis Chédid, tu peux compter sur moi. Bah, c'est un peu ça l'histoire aussi de la caution. Mais est-ce que c'est bien raisonnable? En tout cas, il faut tout savoir avant de prendre ce genre de lourde responsabilité. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. Se porter caution pour quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est pas léger histoire.
Non. Hein. Alors déjà, pour éviter toute confusion, il y a quelque chose qu'on va évacuer tout de suite. Quand on parle de caution, on pense au chèque de caution. Quand on loue une voiture, une maison de vacances, ça c'est un abus de langage, c'est un dépôt de garantie. Donc la caution, la vraie caution, celle dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas ça. Se porter caution, ça veut dire payer à la place de. Donc si on vous demande de vous porter caution pour quelqu'un, cela veut dire que vous vous engagez à régler ses dettes s'il ne peut pas payer, donc ce n'est pas anodin.
Non, et ça peut aller très loin. Dans quelle situation une caution ou un garant peut-il être demandé?
Alors, la caution, c'est une garantie pour un bailleur. Donc quand vous vous portez caution pour un locataire, vous vous engagez par écrit à payer les dettes locatives, c'est-à-dire à payer le loyer, les charges, les frais de remise en état de l'appartement dont est redevable le locataire. La caution, c'est une garantie aussi pour la banque. Elle vous demande un garant quand vous souscrivez un crédit, et là, le garant s'engage à régler les mensualités qui sont dues à la place de l'emprunteur jusqu'à la fin du crédit. Et la caution, c'est aussi une garantie que la banque peut vous demander pour contourner la responsabilité limitée quand vous montez une société en SARL. Si jamais la société fait faillite, vous perdez ce que vous avez mis, mais pas vos biens personnels. Mais très souvent, les banques, pour contourner l'obstacle, elles disent « Ah bah vous allez me signer une caution, et là, vous allez engager vos biens personnels. » Donc, se porter caution, c'est un acte qui peut se révéler très lourd de conséquences. Vous vous engagez à payer à la place de quelqu'un.
Et ça peut durer des décennies. Il existe différents types de caution.
Oui, vous avez la caution simple et la caution solidaire. Par exemple, vous portez caution pour un locataire. Si c'est une caution simple, cela veut dire que le propriétaire fera appel à la caution uniquement si le locataire a été mis en demeure de payer et qu'il n'est pas en mesure de régler ses dettes. Mais ce qui est le plus fréquent aujourd'hui, c'est la caution solidaire. Cela veut dire que le propriétaire ne s'embête pas à relancer le locataire, il actionne directement la caution, donc il peut venir directement vous chercher dès le premier impayé sans avoir appelé le locataire.
Qui peut se porter caution, Armelle Lévy?
Généralement, c'est un proche. Vous allez vous porter caution pour vos enfants, éventuellement pour vos parents. On peut se porter caution pour un ami, mais comme le précise l'association de consommateurs CLCV, se porter caution pour des amis, ça peut créer des relations un peu tendues. Si vous voulez rester copain avec vos amis, ne vous portez pas caution pour eux, c'est une très mauvaise idée. Ou ça peut être un organisme social, comme Action Logement, qui s'engage à payer à votre place votre loyer en cas de pépin. C'est la garantie Visal. Il y a des conditions d'âge et de revenus pour les 18-31 ans. Mais ce n'est pas l'abbé Pierre, hein, ce n'est pas philanthropique. L'organisme se retournera contre vous en justice et pourra saisir vos biens si vous ne payez pas. Et comme le précise l'UFC Que Choisir, le locataire peut aussi recourir à une assurance de loyer impayé s'il n'a pas envie de demander à sa famille de se porter caution ou si tout simplement les parents ne gagnent pas assez.
Et comment ça se passe pour une colocation?
Alors généralement, il y a une clause de solidarité, ce qui veut dire que chaque colocataire, par sa caution, peut être amené à payer l'intégralité du loyer. S'il y a 3 locataires, chacun s'engage à payer la totalité du loyer en cas de défaillance, donc pas uniquement sa part. Mais l'idée, c'est de bien identifier de qui vous êtes caution, pour ne pas être caution de tout le monde. Parce que les parents de Jacques peuvent parfois se retrouver caution de Paul ou Pierre. Autre chose à savoir, si un des locataires s'en va, sa caution s'éteint au bout de 6 mois après son départ. Ça, c'est une avancée, parce qu'avant, ça pouvait durer des années jusqu'à la fin du bail. Et enfin, une dernière chose, la caution s'éteint tout de suite si le locataire sortant trouve un autre colocataire pour le remplacer.
Et comment est-ce que l'on devient, en fait, officiellement le garant d'une personne ?
Alors ça, vous tombe pas dessus comme un rhume. Hein.
Oui, c'est ça, il faut s'engager, finalement,
voilà,
pour ça.
Voilà, il faut le vouloir. Quand vous vous portez caution, c'est très formalisé. Vous engagez obligatoirement par écrit à payer les dettes de la personne que vous connaissez. Et dans cet acte écrit, c'est marqué très précisément ce pourquoi vous vous portez caution.
Alors, à quoi ça engage concrètement ? Parce que c'est du sérieux.
Oui, vous pouvez même engager votre propre bien sur ce coup-là. On peut venir chercher l'argent dû par le débiteur sur vos revenus et même sur votre patrimoine. Les créanciers peuvent vous envoyer l'huissier pour régler la dette de l'autre personne qui n'a pas pu payer, donc c'est très lourd. Alors, c'est pas « je signe ça, tout sourire et je paierai jamais ». C'est « je signe ça ». Et je prends le risque un jour de devoir payer. Vous savez que ce n'est pas un contrat de confiance. Vous pouvez très bien avoir confiance en quelqu'un, votre ami qui monte son entreprise, mais s'il a des aléas dans la vie, des problèmes de santé, n'importe quoi, là c'est financier, c'est vous qui payez. Vous prenez le risque de payer, même de payer plus avec les intérêts et tous les frais. Donc il ne faut pas faire ça que pour le cœur, on va dire. Il faut être conscient du risque et l'évaluer. Donc quand vous devenez caution de quelqu'un, vous ne devez pas vous dire « tout va bien, il paiera ». Vous devez garder en tête que s'il ne paie pas, c'est pour votre pomme.
Et puis là, vous parlez des amis, mais ça peut être aussi, et ça, il faut le savoir, dans les familles, ça peut être également dans les couples. Donc, il faut effectivement toujours faire preuve de méfiance. Est-ce qu'on peut limiter notre engagement ?
Alors, l'acte de caution décrit exactement votre engagement. Ouais. Donc, comme c'est vous qui le signez théoriquement, l'acte de caution est le meilleur moyen de fixer les limites de votre engagement, que ce soit le montant ou la durée. Sauf qu'en pratique, les banques ou les bailleurs vous donnent le formulaire tout prêt à signer « je veux une caution, point ». Vous recopiez les lignes à la main, s'il y a une rature, vous recommencez. Ils ne vous permettent pas de modifier le contrat de caution. Après, si vous êtes marié, effectivement, et que votre conjoint se porte caution pour quelqu'un ou pour un emprunt, la loi dit que pour les époux, le signataire seul n'engage que ses biens propres qu'il avait avant le mariage et ses revenus. Mais pas les biens communs ni les biens propres de son conjoint pour protéger l'autre époux, la famille. En revanche, si les deux signent, là, les biens des deux sont engagés.
Voilà, et attention aussi au mariage sous la communauté des biens. On va se retrouver dans un instant, Armel Lévy, parce qu'on va voir sur combien de temps nous engage évidemment une caution. Et puis, toutes les questions que l'on a encore à vous poser au sujet de cet acte qui peut être lourd de conséquences. On est ensemble jusqu'à 10h. À tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
On est ensemble jusqu'à 10h, nous voilà bien, c'est votre rendez-vous conso du samedi matin. Et bonne humeur également. On parlera du pomelo tout à l'heure, on va se demander si consommer responsable c'est forcément consommer bio. Mais pour l'heure, attention, Armel Lévy nous prévient sur les risques que l'on prend lorsque l'on se porte caution. Voilà, le générique de Friends, I'll be there for you, je serai toujours là pour toi. D'accord, ok, mais enfin bon, c'est ce que l'on se dit parfois lorsque l'on se porte caution et c'est un engagement qui n'est pas anodin, on l'a bien compris. Est-ce que ça nous engage sur une durée précise, Armel Lévy ?
Oui, en fait, vous avez deux types de caution. La caution à durée déterminée, vous êtes tenu des dettes jusqu'à la fin du bail ou du crédit, jusqu'à la date prévue. Mais en revanche, on peut prévoir une date de fin ou des conditions qui mettent fin à l'engagement. On peut dire, je me porte caution jusqu'à ce que vous vous mariez ou jusqu'à ce que vous divorciez, vous voyez. Ça, c'est pas mal.
Ouais.
Et vous avez des cautions sans durée. Là, la personne qui se porte caution peut mettre fin à tout moment à son engagement par une lettre commandée avec accusé de réception. Mais attention, il y a des cas, notamment pour le bail, où ça ne marche pas. Même si vous écrivez pour mettre fin à la caution, elle expirera à la fin du bail quand même.
D'accord. Si la personne déménage ou rembourse son crédit, la caution, elle s'efface de facto, j'imagine.
Oui, la caution, elle porte sur une dette particulière, un bail, un crédit. Donc, si la personne met fin à son bail ou à son crédit, dès que la dette s'éteint, il n'y a plus de caution.
Alors, si on souhaite aussi ne plus être caution pour des raisons X ou Y, je pense notamment dans le cadre d'un divorce, est-ce qu'on peut résilier notre engagement ?
Ah bah non. Ben non, vous avez
ça,
signé.
Ça, il faut le savoir.
Ce n'est pas on est copains, je signe ma caution maintenant, on n'est plus copains, j'en veux plus. Si c'est une caution avec une durée déterminée, vous êtes tenu d'aller jusqu'au bout. Et si c'est une durée indéterminée, vous pouvez résilier avant théoriquement, mais on l'a vu, hein, pour un bail, vous êtes malgré tout tenu des dettes jusqu'à la fin du bail. La caution, c'est un acte très grave. Vous êtes engagé à payer à la place de la personne jusqu'à l'absorption des dettes, donc jusqu'à leur extinction.
Et qu'est-ce qui se passe si la personne pour laquelle on se porte caution n'est pas solvable ou se rend volontairement insolvable ?
Ah ben, on va chercher l'argent ou saisir les biens de la caution qui est solvable. Donc vous payez pour elle, c'est le principe de la caution, hein, ça prend tout son sens. Vous devez éponger les dettes de celui ou de celle qui ne paye pas, puisque vous vous êtes porté caution.
A-t-on des recours, Armel Lévy ?
pas trop, vous pouvez vous retourner contre le débiteur, mais s'il n'est pas solvable, alors vous fait une belle jambe, vous n'aurez pas de recours. Et comme vous avez signé un contrat, c'est vous qui êtes tenu de payer ses dettes. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'aller en justice pour demander au juge de se prononcer sur le contrat que vous avez signé. Parce que vous ne pensiez pas avoir signé ça. Parfois, le créancier, pas le débiteur, mais celui à qui vous devez de l'argent, vous a caché des informations. La société était dans le rouge, elle ne vous a pas informé à temps que la situation allait mal. Ça peut faire sauter les intérêts, mais ça ne va pas annuler le contrat. De toute façon, c'est pas vous qui allez dire « mon contrat, je considère qu'il est nul », c'est un juge qui peut dire que le contrat s'annule. Donc il faut voir avec un avocat comment il est possible de l'arrêter, ce fichu contrat. Mais franchement, ça paraît très compliqué. D'où l'importance de voir pour qui on s'engage et pourquoi on s'engage.
Voilà, effectivement. Et donc réfléchissez bien, petit conseil personnel. Bon, et vous nous avez averti sur la caution. Et c'est vrai que ça peut être un acte très grave qui vous poursuit toute la vie. Mais moi, je vais remonter aussi le moral de ceux qui sont concernés par le sujet. Parce que je vous le rappelle, c'est la dernière chance pour tenter de gagner une cuisine but d'une valeur de 5000 euros. Alors ça ne rembourse pas la dette des créanciers. Enfin bon, ça peut faire du bien. Vous allez pouvoir changer ou créer votre cuisine et réaliser toutes vos recettes préférées dans un espace que vous adorez. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Pour vous inscrire, vous envoyez BUT, B-U-T, au 74 900 par SMS, 75 centimes par SMS. Tirage au sort tout à l'heure dans RTL, vous régale. Bonne chance à tous. Armelle Lévy, merci beaucoup. Vous consommez bio, vous, Armelle?
Oui, j'aime bien, oui.
Et vous avez le sentiment de bien consommer?
Oui.
Eh bien, écoutez bien la suite avec Olivia Détroya, tout de suite sur RTL.
Mes parents sont bio, 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 bio. Ne mangent que du bio, 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 bio. Ne boivent que du bio, 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 bio.
Pascal Parizeau, ce matin, sur RTL, à ne pas confondre avec notre collègue d'RTL, Olivia Détroya, bonjour.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste économie, agriculture et grande conso au Figaro. Ça en fait, dis donc, des choses sur votre CV. Merci beaucoup d'être avec nous, Olivia.
Merci Flavie, merci de cet hommage.
Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui consomment bio aujourd'hui?
Oui, alors tout le monde ou presque, Flavie, a déjà consommé du bio, parfois même sans s'en rendre compte. On est 90% hein, sur la dernière année à avoir mangé du bio au moins une fois. Alors si on regarde ce qui est plus pertinent, ceux qui le font plus régulièrement, au moins une fois par mois, c'est plus de 7 Français sur 10. Et du bio tous les jours, c'est 13% des Français. Alors on n'a pas encore les chiffres pour 2020, mais on devrait dépasser les 12 milliards d'euros dépensés tous les ans dans les produits AB. C'est à peu près 6% de nos achats alimentaires.
D'accord, donc c'est un marché en plein essor. Hein, voilà.
Oui, c'est en plein essor depuis 2015. Ouais.
Voilà, et puis qui se démocratise, hein, je dirais, de plus en plus. Quand on consomme bio, on s'imagine que l'on consomme sain, responsable et éthique. Moi, c'est mon cas. Alors là, c'est une question un peu difficile à poser, mais est-ce que c'est une réalité?
Oui, alors sain probablement, oui, Flavie, alors, rassurez-vous. Ouais. Parce que si on schématise un peu, le label agriculture biologique, ça reconnaît une agriculture qui est sans pesticides. Ouais. Donc pour les produits bruts ou peu transformés, c'est probablement plus sain. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de gras, moins de sucre ou moins de sel. Hein.
C'est vrai.
Bien faire attention. C'est pareil sur le côté responsable ou éthique. Ça dépend de ce que vous mettez derrière ces mots-là. Si on force un peu le trait, un produit cultivé en bio peut l'être par des gens qui ne sont pas payés ou par des enfants, hein, au pire. Et là, c'est loin d'être éthique. Alors attention, loin de moi l'idée de dénigrer le bio. Au contraire, hein, c'est un label de qualité et un signe de qualité très exigeant. Il faut juste bien faire la différence entre les critères objectifs du cahier des charges bio qui sont obligatoires, ouais, et tout ce qui relève de la philosophie et des valeurs du bio qui ne sont pas obligatoires dans le label AB.
Et le bio, c'est pas toujours local?
Alors là, c'est pareil. Le bio n'exige pas effectivement de culture locale. Mmh. Il y a un certain nombre de produits bio ou pas bio, d'ailleurs, qui ne poussent pas toujours sous les, pas encore sous les tropiques français. Alors les exemples les plus connus sont les avocats ou les bananes bio, ouais, qui viennent rarement de la ferme d'à côté de chez moi. Si vous cherchez du local, vous préférez les AOP, qui sont les appellations d'origine protégée, ou les IGP, qui sont des indications géographiques protégées.
On va se retrouver dans un instant, parce qu'on n'en a pas fini des questions. Moi, il en est une que je vais vous poser dans un instant. Quand j'achète des fruits et des légumes bio, je veux toujours les acheter en vrac. Parfois, je les vois, ils sont emballés dans du plastique, même plutôt que dans une matière naturelle. Ça choque beaucoup, beaucoup de consommateurs. Vous allez nous répondre dans un instant. Et puis, on se retrouvera aussi après pour parler pomelo avec Sonia Esgulian. Et vous saurez quoi cuisiner pour le week-end. À tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL,
Flavie Flamand, nous voilà bien.
C'est la star sur les étals, le pomelo is back. Et Sonia Esgulian va nous expliquer comment le cuisiner dans un instant. Mais pour l'heure, est-ce que le bio, c'est vraiment éthique? On en parle avec Olivia Détroya.
Oh, la belle bio, le poulet certifié sans problème.
Alors c'est forcément plus sain de manger bio, on l'a bien compris. Mais ça n'est pas forcément plus responsable ni plus éthique. Et on en parle avec vous, Olivia Détroya, vous êtes journaliste économie au Figaro. Comment est-ce qu'on peut expliquer que des fruits et des légumes bio puissent être emballés dans du plastique?
Ouais, c'est très étonnant et c'est très antithétique avec le bio. En fait, la première explication, elle est technique. On mettait les produits bio sous plastique pour les différencier des produits conventionnels. Parce que souvent, de visu, on ne fait pas la différence entre du bio et du non bio. En revanche, à la caisse, le prix n'est pas le même. Donc, c'était vraiment pour éviter les erreurs ou les fraudes. Ceci dit, c'est vraiment de moins en moins fréquent dans les enseignes ou les marques. Hein, on les différencie de plus en plus dans des emballages en carton. On les met aussi dans des filets en coton bio ou encore un peu plus récemment, et même si c'est plus marginal, par un système de micro-gravage au laser sur la peau des fruits et légumes, ou on micro-grave bio directement sur la peau, sans danger pour le consommateur, évidemment.
Donc ça va dans le bon sens, hein, ce que vous m'expliquez,
même
si effectivement, moi j'en vois toujours. Les produits bio issus des animaux, est-ce qu'ils respectent toujours leur bien-être?
Alors oui, c'est de plus en plus le cas. D'ailleurs, parmi les rares changements au cahier des charges bio européen, le dernier qui va entrer en vigueur l'année prochaine vise à garantir une meilleure prise en compte de ces sujets-là. En bio, par exemple, on ne peut pas élever hors sol. Tous les animaux ont accès à un parcours extérieur. On ne peut pas abattre sans étourdir. On ne peut pas attacher les animaux, sauf exception. Il faut de la lumière, une surface minimum, une alimentation bio, évidemment. Et puis, le gavage est interdit. Donc, c'est impossible de trouver du foie gras bio. Là encore, Flavie, attention, tout dépend de ce que vous mettez derrière le terme bien-être animal.
J'entends. Et d'ailleurs, je crois que l'association L214 avait pointé du doigt les pratiques d'un abattage bio ces derniers mois. Comment est-ce qu'on peut expliquer tous ces paradoxes, justement?
Alors, ils sont dus au fait, comme on le disait tout à l'heure, que les consommateurs n'ont pas toujours en tête les critères qui relèvent ou non du cahier des charges bio. Donc, ils font parfois des raccourcis un petit peu rapides, aidés parfois, il faut le dire, par des slogans qui entretiennent la confusion sur ce marché qui marche très bien et qui attise des convoitises. Quand on entend souvent « mangeons bien, mangeons bio », c'est parfois et souvent vrai, mais c'est aussi parfois faux.
Est-ce que justement ceux qui ne respectent pas tout ça sont dénoncés?
Oui, ils ont été dénoncés même par des anciens de la grande consommation. Je pense à un livre récent qui est sorti l'année dernière qui s'appelait « Les imposteurs du bio ». Qui dénonçaient soit les fraudes réelles ou bien les incohérences dont on parlait avec les valeurs associées au bio. La meilleure dénonciation quand même, ça reste la vôtre, la mienne, celle des consommateurs. Aujourd'hui, le consommateur ne veut plus acheter du bio suremballé et c'est ça qui amène les enseignes et les marques à faire mieux sur ces valeurs-là.
Donc on assiste à une véritable remise en question aussi de la filière bio?
Oui, il y a beaucoup de marques qui font ce que j'appelle du bio plus. Elles se disent la seule obligation du bio n'est plus suffisante pour respecter la planète et mon corps, ou alors il y a tellement de bio aujourd'hui que ça ne me permet plus de me différencier de mes concurrents, donc je fais un peu plus. Je fais pâturer mes vaches un petit peu plus longtemps, je fais que du bio local ou que en vrac, et ça se développe et c'est aussi un des succès du bio, c'est d'arriver quand même à créer ce cercle vertueux où on fait toujours mieux.
Est-ce qu'il y a une concurrence au bio justement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres approches qui pourraient intéresser les consommateurs?
Tout à fait, alors c'est pas forcément une concurrence, c'est mettre en avant d'autres critères qui sont tout aussi, voire plus importants pour les consommateurs. Vous parliez tout à l'heure du bien-être animal, avec des labels spécifiques qui se développent. On a aussi le label rouge, qui est bien connu, un peu moins exigeant que le bio, mais qui marche bien. Sur les œufs, il y a le plein air. Il y a la haute valeur environnementale, la HVE, qui est un peu moins connue, mais qui est aussi basée sur des techniques respectueuses de l'environnement. Et évidemment, le local, le Made in France, le Made in Normandie ou Bourgogne, je ne sais pas d'où vous venez. Mais en tout cas, vraiment, cet aspect local qui a vraiment presque détrôné le bio dans les attentes des consommateurs aujourd'hui.
Oui, donc en fait, on est sur le chemin d'une alimentation, quoi qu'il arrive, meilleure. Si tout le monde se regroupe avec ses critères, on devrait parvenir à quelque chose de bon, d'éthique et de responsable. Qualitativement.
Et de qualitatif, surtout.
Et de qualitatif. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Le consommateur, il peut s'y retrouver quand même aujourd'hui ou pas?
Oui, probablement sur les produits animaliers, parce qu'un animal qui est moins stressé, en général, produit de la meilleure viande. Sur les fruits et légumes aussi, c'est pas automatique, mais en général, si on respecte plus le cycle naturel et la saisonnalité des produits, le produit est meilleur. Et puis aussi sur les IGP et les AOP dont on parlait tout à l'heure, qui garantissent un savoir-faire reconnu dans une zone géographique. Et c'est cette zone géographique qui donne ses caractéristiques et son goût aux produits, donc on s'y retrouve un peu plus.
Eh bien moi je vous remercie Olivia Détroya, parce que c'était très intéressant aujourd'hui, c'était très éclairant justement, on verra le bio donc peut-être aussi d'une autre façon grâce à vous. Je rappelle donc qu'on retrouve votre plume au Figaro, Olivia Détroya, il en est une qui vous écoute, c'est Sonia Esguignan qui dans un instant vous va nous parler du pomelo. À bientôt Olivia Détroya.
Merci Flavie, à bientôt.
Merci à vous.
Le pamplemousse pique, pique, pique les babines. Le pamplemousse pique, pique, pique les babines.
Ah bah alors justement, est-ce que pamplemousse et pomelot, c'est la même chose? Bonjour Sonia Esguignan.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue, vous êtes cuisinière, auteure et journaliste. Alors, c'est le même fruit?
Eh ben non, pas du tout. Ah. Moi, je me suis trompée pendant des années, oh là là. Alors en fait, voilà.
Aussi.
Voilà. En fait, ce qu'on voit le plus souvent sur nos étals, ce sont des pomelos. En fait, le pamplemousse, c'est beaucoup plus gros. C'est un agrume qui est quand même d'une belle taille, hein, presque aussi gros qu'un melon, voire plus,
ouais.
Avec une peau très épaisse et c'est assez acide et quelquefois un petit peu amer. Et en fait, le pomelo, c'est en fait un agrume qui est issu d'une hybridation en fait entre le pamplemousse et une orange. Donc c'est beaucoup plus doux, c'est plus petit. On voit bien que la peau est beaucoup plus fine. On a affaire à un agrume plus sympathique au niveau du goût. Enfin, en tout cas, pour nos palais européens. Et c'est le seul agrume qui... Le pomelo, c'est le seul agrume qui vient des Antilles, en fait. Ce n'est pas un agrume qui vient d'Asie, comme la plupart des agrumes.
Et ben voilà, bah maintenant, on sait qu'on va parler donc du pomelo.
On apprendra un truc ce matin.
Du pamplemousse, exactement. Et dans un instant, vous allez nous expliquer ce qu'on peut en faire. A tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Grâce à Sonia Esguignan, maintenant, on sait faire la différence entre un pamplemousse et un pomelo. Mais comment on le cuisine? Réponse tout de suite.
C'est si bon. So I say to you.
Le pomelo est à l'honneur. Donc, il est plus petit, c'est le bébé du pamplemousse et de l'orange, ce qui explique effectivement qu'il ne soit pas trop acide, hein, même si quand même certains ont du mal et qu'il ne plaît pas à tous les palais. Il est un peu acide, il est amer, il est un peu sucré. C'est quoi l'intérêt du pomelo?
Ben justement, c'est son acidité et sa petite pointe d'amertume. Alors, quand on parle recette, souvent, quand on veut faire un peu son grand chef, on se la pète et on dit ben, je vais équilibrer mon plat, il est un petit peu trop doux, trop rond ou trop sage, hop, on met une petite pointe d'acidité ou une pointe d'amertume. Alors, moi, j'aime bien, par exemple, avec ce que je fais avec le pomelo, c'est, alors, le plus dur, c'est de le peler à vif. Vous savez, c'est sortir les segments sans avoir la petite peau. Alors, il y a des super tutos, parce que pour vous l'expliquer à la radio, c'est pas très simple. Mais il y a des petits tutos qui expliquent comment on fait ce geste très spécifique qui s'appelle peler à vif.
Mm-hmm.
Si on n'y arrive pas, il existe un petit ustensile formidable que mon mari m'a offert.
Ah, oh, je l'adore.
Qui est un couteau à pomelo. Enfin,
mais
on l'appelle à pamplemousse. Et ça marche
bien.
Terrible. Ça
mais
marche
je m'en
terrible.
Sers pour tout. Je m'en sers pour les avocats. Je m'en sers. C'est
mais
absolument
oui.
génial. Pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est une sorte de couteau. Comment dire, arrondi.
Oui, voilà, avec une lame un tout petit peu incurvée, comme ça, avec des petites dents.
Exactement.
Et c'est hyper pratique. Alors, en fait, on coupe le pomelo en deux. Et en fait, avec ce petit couteau, on va pouvoir sortir les segments. C'est magique.
Exactement.
Alors, quand on a les segments après, bah, on va s'amuser à les mettre, par exemple, on se fait cuire un magret de canard. On va ajouter ces petits segments sur le magret. Ça va donner un petit goût très vif. Quand on fait une salade, alors souvent, on croit. À tort peut-être, en tout cas ça apporte beaucoup de vitamines, mais ça ne fait pas maigrir le pomelo. Mais c'est
alors,
vrai que...
On nous dit que c'est un brûle-graisse.
Oui, alors bon, c'est comme plein de choses. Hein. Le gingembre est aussi considéré comme, comment on appelle ça, un aphrodisiaque, et c'est pas forcément vrai. Donc bon, alors si ça fait plaisir,
ça
fait pas de mal. Ça
fonctionne.
Voilà. Bon, moi j'en mange plein des pomelos, j'ai pas perdu un gramme. C'est pas grave.
Mais
ce n'est pas grave
parce
qu'ils font beaucoup de bien à la tête, donc c'est ça le plus important.
Mais moi je trouve ça absolument délicieux le pomelo, et effectivement on peut le mettre partout, et je conseille vraiment à nos auditeurs d'aller chercher ce couteau, cette petite cuillère à pomelo qu'on peut utiliser partout dans la cuisine, parce que ça fait partie à mon avis des indispensables. Comment est-ce que je le choisis bien mon pomelo?
Alors il doit être très ferme. Alors nous on a la chance d'avoir le pomelo de Corse, qui est vraiment un super fruit. Là, en ce moment, c'est la pleine saison, donc il faut vraiment se lâcher et faire des préparations avec ce pomelo de Corse. Alors, on le choisit avec une peau très lisse. Il est assez lourd, quand même, le pomelo, hein, par rapport à la taille d'une orange. Quand on va le soupeser, on va voir qu'il est bien lourd, bien ferme. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment le bon fruit. Il peut être à l'intérieur avec une chair très rouge ou alors une chair plus claire. Ça dépend des variétés. Donc, en général, général, c'est inscrit sur les petites étiquettes du maraîcher. Mais moi, j'aime bien avec une chair très rouge. Je trouve qu'il est assez vif et surtout, dans les salades, encore une fois, ça fait vraiment une salade très joyeuse. C'est-à-dire que là, on va couper, on peut mettre des petits pois, il y a des fèves, on va mettre des asperges, on va mettre les premières courgettes dans une salade, par exemple, toute verte. Et on va simplement ajouter des petits segments de pomelo. Mmh. Ça, c'est vraiment fantastique. Et comme il reste toujours un petit peu de jus dans le demi-pamplemousse, parce que vous savez à quel point je suis anti-gaspi, on garde son petit jus et on le met dans la vinaigrette. Mmh. Ça, c'est top à la place du vinaigre. Ça complète, en fait, l'idée. Mmh. Et c'est vraiment très, très bon.
On peut l'associer à tout, le pomelo ?
Alors, pratiquement. C'est-à-dire que tout dépend aussi de la préparation de base. C'est-à-dire que si la préparation est déjà assez acidulée, par exemple, il ne va pas très bien avec les tomates. C'est pas forcément un bon mélange. Mais à partir du moment où les aliments sont plutôt doux, on fait par exemple, moi j'ai fait il y a une petite semaine, avec un reste de poulet, j'ai fait un poulet en gelée et j'ai mis plein de pomelo. D'abord c'est hyper bon, c'est hyper frais et ça se marie bien par exemple avec l'estragon. Donc ça c'est vraiment très très délicieux. Donc à part les autres aliments acides, le pomelo peut aller avec tout. Alors la petite chose c'est qu'en général, on ne le fait pas trop cuire, c'est pas très intéressant de cuire le pomelo. C'est vraiment l'ingrédient qu'on va poser au dernier moment. On peut tout à fait le poser sur une préparation chaude. Hein. Je pense notamment au poisson grillé avec une sauce vierge et puis des petits pomelo. Ça, c'est top, mais on va pas forcément vraiment le cuire, sauf pour les desserts. Alors là, on parle plus du tout de cuisine diététique.
Parce que moi, je le fais cuire, le pomelo. Je vais vous donner ma recette. Après, je vais vous laisser vous donner. Non, mais c'est très, très simple. Moi, je coupe un pomelo. Je le mets dans le four à 180 degrés ou 200. Je ne sais jamais, mais enfin, comme je le sens. Avant, je le pique de clous de girofle. Je mets du sirop d'agave, je mets, effectivement, vous parliez d'estragon, et je mets des herbes comme ça, et je le mets juste au four, et après je le mange avec cette fameuse petite cuillère, j'en enlève à l'intérieur donc de ce demi-pomelo, j'extrais tout simplement les petits quartiers de chair que je laisse à l'intérieur du pomelo, et on a juste à le manger à la cuillère, et c'est absolument divin, ça vous branche ?
Voilà. On va changer les rôles dorénavant.
Voilà, alors ça c'était ma recette, et j'invite tous nos auditeurs à nous dire ce qu'ils en ont pensé, c'est tout simple, et c'est vraiment très très bon. La vôtre ?
Ah bon, alors là, moi, c'est moins diététique. J'ose, je me lâche. Je coupe le pomelo en quartiers, et puis après, chaque quartier, je vais le couper en trois. Donc, on obtient, pour un pomelo, 12. Bon, il n'y a que moi qui suis, bon, c'est pas grave.
Ouais, c'est bon, non, non. Allez-y, allez-y.
Et
non,
donc, ces petits morceaux, je les fais blanchir 4 fois. Pour enlever un petit peu l'amertume du pomelo. Donc blanchir, ça veut dire je les mets dans l'eau froide, je porte à ébullition, je verse le tout dans une petite passoire et je recommence. Et la quatrième fois, je mets à peu près 4 cuillères à soupe d'eau. Mmh. Oh mon Dieu, pour 3 pomelos, je mets 400 grammes de sucre. Et là, je fais cuire tout doucement avec une étoile de badiane et un bâton de cannelle. Mes pomelos sont prêts quand l'écorce est complètement translucide. Là, j'arrête le tout, je pose ça sur une petite grille et je laisse sécher les pomelos une journée si je tiens le coup parce que c'est très 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 bon, donc il faut résister. Ça va légèrement sécher et on va faire des pomelos confits. Ça, c'est formidable pour, par exemple, déguster comme ça, mais à utiliser dans des petites préparations, dans des cakes, avec le fromage blanc. En fait, on peut l'utiliser pendant une semaine dans différentes préparations.
Eh bien, ça en dit long sur votre cuisine et sur la mienne.
Voilà, la raisonnable et la trop gourmande.
Exactement. En tout cas, je vous remercie Sonia Esguillian pour cette recette que je vais m'empresser de tester ce week-end. Merci beaucoup. En tout cas, tiens, il faut que je rappelle votre page Instagram. Et puis, il y a aussi une campagne de financement participatif pour réaliser un livre au profit de Handicap International qui fête ses 40 ans. Donc évidemment, on y tient. Vous avez imaginé un livre de cuisine qui met en lumière des femmes qui ont bénéficié de l'aide de Handicap International pour elles-mêmes, un enfant ou un proche. Voilà, donc je tiens à préciser que cette campagne de financement participatif existe. Merci beaucoup Sonia Esguillian.
Merci Flavie.
Vous savez comment ça se termine ?
Oui, j'adore. Des petits bisous.
Eh bien non.
Oh,
écoutez donc.
Je n'ai qu'un
au revoir, mes frères. On avait
décidé de changer. Voilà. Ce n'est qu'à nous revoir, Sonia.
Il ne faut pas rester dans les habitudes.
C'est la fin de Nous Voilà Bien. Je vous embrasse, Sonia Esguignan.
À très bientôt.
Retrouvez le replay de l'émission sur l'appli RTL ou sur Radio Player France et les recettes sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre. C'est votre magazine du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine, 9h15, 10h pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Prenez bien soin de vous. Passez un bon week-end à l'écoute de votre radio préférée. Tout de suite, après les infos, c'est RTL qui vous régale. Je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamme.